Messieurs, dames, bonsoir, bienvenue. Vous êtes en direct sur le studio Kalangou au micro Diallo Mariama Kenda. Il est 18h. Le journal en français, c'est maintenant. Voici ce qui fera l'essentiel de l'actualité. Assemblée générale extraordinaire ce matin de la Maison de la Presse. Objectif, le toilettage des textes qui encadrent son fonctionnement et doter l'association des nouveaux manuels de procédures administratives, financières et comptables. Lancement officiel du Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchandji ce matin au palais des congrès de Niamey. Vous entendrez le président du bureau politique national provisoire Falke Bacharo. La campagne locale de vaccination contre la poliomyélite a démarré ce matin à Maradi. Au total, 1 272 879 enfants de 0 à 5 ans constituent la cible vaccinée pendant 4 jours. Une campagne qui vient en riposte aux 4 cas de poliomyélite enregistrés au Nigeria voisin. Dans la partie magazine de ce soir, nous parlerons de la vente des produits périmés tels que le lait en poudre, les jus et les biscuits sur le marché de Maradi, un phénomène qui prend de l'ampleur. Merci de rester à l'écoute. Dans la région de Maradi, 3 hommes armés soupçonnés d'être des combattants de Boko Haram ont été arrêtés le jeudi 26 janvier par les forces de défense et de sécurité dans la forêt de Bamban Rafi, commune de Safo, dans le département de Maïda Rumfa. Selon des informations encore non officielles, ces hommes armés seraient des éclaireurs d'un groupe de 12 combattants. Ce matin samedi, le maire de la commune de Safo était en réunion de sensibilisation avec les chefs de village pour renforcer la vigilance, mais aussi pour appeler à ne pas céder à la panique. Situation très sensible, ni le préfet de Madarumfa, ni le gouverneur de Maradi n'ont voulu réagir. Démarrage ce matin à Maradi de la campagne locale de vaccination contre la poliomyélite. Au total, 1 272 879 enfants de 0 à 5 ans constituent la cible à vacciner pendant 4 jours. Cette campagne vient en riposte aux 4 cas de poliomyélite enregistrés au Nigeria voisin, avec lequel la région de Maradi partage une longue frontière. Ousmane Yakouba, responsable au service hygiène et assainissement de la Direction régionale de la santé publique de Maradi, explique que cette campagne de vaccination a une particularité, celle de faire la promotion de 4 bonnes pratiques pour améliorer l'hygiène dans les foyers afin de combattre efficacement la maladie. Il est au micro de Mohamed Maman.
Il y a une persistance de 4 mauvais comportements, en tout cas au sein de la population, qui nous appartient tous, de vulgariser, d'informer les gens pour que chacun sache de quoi il s'agit. La première précaution, c'est le lavage des mains en famille. Il faut que ça soit fait en famille. Un autre comportement approuvable en famille, c'est empêcher aux gens de faire la défécation à l'air libre. Imaginez un être humain qui va déféquer à l'air libre, ça n'a pas de sens. Chacun dans sa famille pour se doté de la latrine qu'il va mettre à la disposition de sa famille. Les gens pensent qu'ils boivent de l'eau potable parce qu'ils ont un robinet à la maison. Non, ce n'est pas dans tous les cas. Tu peux avoir un robinet chez toi, mais si les jarres, les tonneaux, le manque de couvercle, la nasse chez toi, c'est comme si tu n'as pas de l'eau potable. Et notre comportement, c'est l'absence de l'assainissement de base. Il y a trop d'ordures dans la ville de Maradi, il y a trop d'eau usée dans la ville de Maradi, imaginez dans l'écran. Il y a même des conflits entre voisins qui sont d'eau usée, qui sont des déchets, il y en a plein. Donc voilà un accent très particulier que nous voulons mettre fin à ces 4 comportements-là.
Vous venez d'entendre Ousmane Yakouba, responsable du service hygiène et assainissement de la Direction régionale de la santé publique de Maradi. L'association Maison de la Presse du Niger a tenu aujourd'hui samedi sa première assemblée générale extraordinaire au titre de l'année 2017. Objectif, toiletter les textes qui encadrent son fonctionnement et doter celle-ci d'un nouveau manuel des procédures de gestion administrative, financière et comptable. Maman Djaharou, membre du bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse, explique la teneur des points inscrits à l'ordre du jour.
l'actualité, tous les textes passés à revue, le texte qui a été élaboré par un consultant, ce qui est une particularité, puisque il faut qu'il y ait assez de vigilance, puisque ces textes-là sont la base de toutes les actions et même de la réussite des actions du bureau du conseil. Le deuxième point, c'est le manuel de procédure. Certes, la Maison de la Presse est une organisation des associations socio-professionnelles des médias. C'est une structure qui est appelée à faire des activités, qui est appelée à faire la promotion de la liberté de la presse, à faire l'accompagnement de la formation des médias. Il est important que cette organisation ait une certaine fluidité dans la tenue des actions, que les membres, chacun puisse connaître son rôle. Ce manuel contient d'abord la mission de la Maison de la Presse, le rôle de chaque membre. Il permet la cohérence des actions de chaque membre, ce qui permettra de se donner à la fin qu'on puisse savoir le rôle que chacun a joué.
C'était à l'instant Mamman Djaharou, membre du bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse. Alternative Espace Citoyen a organisé ce samedi matin, dans ses locaux, une table ronde pluriacteurs autour d'un rapport d'analyse sur le projet d'accaparement des terres agricoles et pastorales en vue de son exploitation par une société saoudienne appelée Al-Khouraïch. Il s'agit, selon le coordonnateur de l'Observatoire du droit à l'alimentation au Niger, une structure indépendante, Diori Ibrahim, de 120 000 hectares de terres agricoles et pastorales. Diori Ibrahim précise que cet accord n'est pas encore signé et ajoute que sur le plan juridique nigérien, c'est un accord illégal. On l'écoute.
Dans le projet d'accord, la société dit qu'elle veut prendre ces terres-là, mais elle n'entend pas payer une indemnisation quelconque. Or, en droit nigérien, il est dit que nul ne peut être privé de sa propriété que pour des raisons. La première, c'est la cause d'utilité publique. La seconde, c'est qu'il faudrait que cette personne soit indemnisée et l'indemnisation doit être juste. Quand nous avons fait l'analyse, nous n'avons vu aucune déclaration d'utilité publique d'abord. La seconde, est-ce que ici on a affaire à un contrat de partenariat public-privé. La loi spécifique à la matière dit qu'on ne peut mettre en contrat de partenariat public-privé qu'un travail qui relève d'abord de votre compétence, vous, entité. Le conseil régional n'a pas le mandat de faire des aménagements. Les terres ne lui appartiennent pas. Et donc, sur quelle base est-ce qu'il va signer un contrat qui va mettre à la disposition d'un investisseur étranger jusqu'à 99 heures des terrains appartenant à quelqu'un d'autre? Il ne s'agit pas en vérité d'un travail de service public ni d'utilité publique parce que c'est une opération purement privée.
Le coordonnateur de l'Observatoire du droit à l'alimentation au Niger a également affirmé que ces 120 000 hectares de terres agricoles et pastorales représentent pratiquement la moitié de l'espace cultivable de la région. Nous avons recueilli la réaction des autorités régionales mises en cause, notamment le président du conseil régional de Difa, Maïrou Malam Ligari. Ce dernier estime que c'est juste un discrédit que les gens veulent jeter sur ce projet dont l'ancrage institutionnel est bien précis.
Un projet d'une telle envergure a forcément un ancrage institutionnel comme ça se doit. Nous avons aujourd'hui le plan de développement économique et social, lui-même qui se décline sur le plan de développement économique et social de la région, qui est le PDR, le plan de développement régional. Donc c'est pour vous dire qu'il n'y a pas de problème par rapport à ce qui concerne l'ancrage institutionnel, elle est nette, elle est normale.
Alors, est-ce que figure dans ce contrat des dédommagements des propriétaires?
Vous parlez de propriétaires comme si vous êtes sûr d'abord que nous sommes allés prendre le terrain de quelqu'un pour faire un projet. L'État a une souveraineté sur ces terres, un. Et deuxièmement, aussi, dans le cadre de tous les projets que vous savez, il y a ce qu'on appelle une étude environnementale, économique et sociale. C'est une telle étude qui peut dire désormais qu'il y a un centimètre carré qui appartient à X ou à Y. Mais à l'avance comme ça, tout simplement pour jeter de discrédit sur un projet, vous attendez l'implantation et la délimitation. Une fois que tout est cartographié, en ce moment, vous saurez bien s'il y a un propriétaire qui est à tel ou tel autre endroit, s'il y a un dédommagement, oui ou non.
Le Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchandji a procédé ce samedi matin au lancement officiel de ses activités politiques au Palais des Congrès de Niamey, occasion pour le président du Bureau politique national provisoire, Falke Bacharou, d'annoncer à l'opinion nationale et internationale l'alternative politique que le RDR Tchandji propose au peuple nigérien.
Nous sommes animés de la ferme volonté de susciter chez nos compatriotes un sursaut patriotique en leur proposant une alternative politique crédible, un cadre de réflexion et d'action centré sur les valeurs de probité. Pour cela, le Rassemblement démocratique et républicain RDR Tchangy, profondément attaché aux principes de la social-démocratie, propose d'œuvrer ensemble pour la défense des droits de l'homme, des libertés civiles et politiques, culturelles et sociales, la lutte contre toute forme de discrimination, d'oppression et d'intolérance, le renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale, l'instauration de la transparence et de la rigueur de la gestion des affaires publiques et la lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et l'impunité. Je ne mentionne ici que quelques aspects importants de nos textes fondamentaux.
Propos recueillis par Moussa Hassan. Clôture ce matin à Niamey de l'atelier de formation à l'écriture et au processus de création chorégraphique au Niger au profit des directeurs de compagnie et danseurs chorégraphes. Une clôture sanctionnée par une pièce chorégraphique. Joël Moulay est danseur chorégraphe et directeur de la compagnie ADC. Pour lui, c'est une grande joie de savoir comment écrire une pièce chorégraphique. Joël nous explique le contenu de la pièce.
Déjà, à la formation, les chorégraphes Maman et Aïda ont fait des exercices individuels déjà pour que chaque danseur puisse faire sortir ses émotions, rentrer dans des états et aussi garder l'énergie déjà. Quand on dit l'énergie, c'est pas la force, c'est vraiment l'énergie intérieure. Mais c'est vraiment un truc un peu comme du yoga, de la concentration, mais c'est vraiment faire ressortir quelque chose qui sort de l'ordinaire, faire ressortir les émotions surtout.
Et c'était quoi une histoire que vous avez racontée?
Déjà, avant la restitution, au cours de l'atelier, pour avoir des éléments, on a demandé à chaque danseur d'essayer de choisir un animal. Donc, par exemple, l'animal que tu vas choisir, n'est-ce pas? Tu vas essayer d'être l'animal, mais pas faire l'animal. Je ne dois pas être à quatre pattes. Je suis danseur. Comment être dans la peau de l'animal?
Sans être physiquement l'animal.
Très bien, sans être physiquement l'animal. Donc, c'est ces éléments-là qu'on a utilisés. Donc, une fois que chacun choisit ces éléments, maintenant, ils disent que chacun propose des mouvements. Donc, c'est en fonction de ces mouvements-là que eux, déjà, les chorégraphes, ils nous ont aidés à écrire cette pièce.
Suivez les programmes du studio Kalangou partout dans le monde grâce à sa page Facebook.
La page Facebook du studio Kalangou.
J'aime et je partage.
18h passées de 12 minutes, la partie magazine de ce journal. Le lait en poudre, les jus et les biscuits sont des produits périmés les plus vendus sur le marché à Maradi. C'est un constat fait par la direction régionale du commerce qui entreprend périodiquement des opérations inopinées de saisie de produits avariés. Pour Madame Aliou Aissata, chef du service du commerce à la direction régionale du commerce de Maradi, ce phénomène prend de l'ampleur parce que les consommateurs n'ont pas le réflexe de vérifier les dates de péremption sur les emballages des produits. Elle est au micro de Mohamed Maman.
On a fait une destruction de produits périmés. Et à divers produits, à des conserves, des bonbons, des biscuits, à tout genre de produits avariés qu'on a pu détruire.
Ça veut dire que les gens profitent de l'ignorance des gens pour leur vendre des produits périmés ici?
On peut dire ça. Les gens n'ont pas l'habitude de vérifier la date de péremption. Même si on sait lire, on n'a pas l'habitude. C'est surtout ça. Et les commerçants préfèrent gagner beaucoup d'argent que de voir la nuisance qu'ils font à la population.
Vous dites que ce n'est pas un réflexe pour le Nigérien de prendre un produit et de regarder la date.
Non, ce n'est pas un réflexe. En tout cas, même moi, un jour, on m'a vendu un produit qui est périmé. C'est après avoir goûté que j'ai compris que c'est un produit périmé. Et tout à coup, j'ai regardé la date et c'est périmé. Vous voyez, donc ce n'est pas un réflexe. Moi qui est censé faire le contrôle, chaque fois je suis sur le marché pour faire le contrôle des produits, mais ce n'est pas un réflexe vraiment.
Si vous arrivez à prendre un commerçant qui vend des produits périmés, est-ce qu'il y a des sanctions?
Oui, il y a des sanctions. On saisit le produit et on fait une amende à la personne. De 12 000 à 100 000.
Nous avons vu quand la date approche, les vendeurs se précipitent à casser le prix et vendre. C'est une bonne chose?
Oui, ça c'est normal parce que la date n'est pas à terme. Donc on peut casser le prix. On les fait des sensibilisations, mais les gens n'arrivent pas à comprendre. De casser le prix une fois que le produit est presque périmé, ça c'est une bonne chose. Parce que tu peux réduire la perte après avoir cassé le prix et vendre ça. Mais une fois que c'est périmé, nous on prend ça et on fait une amende. Et donc ça c'est pas bon.
Madame, dans les produits que vous avez saisis, quels sont les produits périmés les plus vendus?
Surtout les jus. Dans la dernière destruction, il y a beaucoup de lait. les laits en carton là. Et même il y a les biscuits.
C'est les petits commerçants qui vendent ou bien c'est les grossistes qui vendent les produits périmés, selon votre constat?
Tous les deux, hein. Il y a les grossistes et les détaillants. En tout cas, on trouve pas mal de choses au niveau des... Surtout les grossistes, comme eux, ils ont une grande quantité de produits.
Propos recueillis par Mohamed Maman, notre correspondant à Maradi. C'est ici que prend fin cette édition. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien.